Le SOX, l'indice des semi-conducteurs, bah il a fait plus 88% en 2 mois. En 2 mois, pas en 2 ans, pas depuis le début de l'idée de l'intelligence artificielle, en 2 mois. Le Kospi sud-coréen est en hausse de 111% depuis le 1er janvier. Et la guerre entre les USA et l'Iran, elle dure depuis 93 jours et personne n'a trouvé le moindre accord. Le détroit d'Hormuz, bah lui, il est toujours fermé. L'essence avait pris 45% en un an. Les défauts de cartes de crédit battent des records et les rendements obligataires sont dangereusement élevés. Les stocks de pétrole sont en train de tomber sur la réserve et il n'y a pas de station-service en vue. Je vous pose donc la question très sérieusement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tout ça sans utiliser le mot intelligence artificielle dedans? Non, évidemment, personne, moi non plus, et c'est exactement le sujet de ce matin. Mais je suis pas bérige du tout, hein. J'explique et des fois je pose des questions parce que j'avoue que je suis un tout petit peu perdu par moment. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le 1er juin 2026, je suis Thomas Veillet, et nous sommes dans un nouveau mois et dans les mêmes problèmes encore. On entre dans le 93e jour de guerre avec l'Iran, et ce matin, je vais vous raconter quelque chose d'assez remarquable. On va parler d'un marché qui a décidé de croire à une chose, à une seule, et de ne plus regarder rien d'autre. On va parler d'un vice-président d'ExxonMobil qui a dit une phrase cette semaine que personne n'a relayée. On va parler de Powell qui a prononcé un discours ce week-end sans nommer personne et qui était peut-être le truc le plus important de ces 3 derniers mois. Et on va parler du fait que SoftBank est devenu ce matin la plus grosse capitalisation boursière du Japon devant Toyota.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors mettons les chiffres sur la table parce que sans ça, on peut pas avoir une conversation honnête. Le S&P 500 est en hausse de quasiment 11% depuis début janvier, le Nasdaq plus de 16% et le SOX plus de 88%, mais ça c'est seulement depuis le 30 mars. Et là vous me dites, mais Thomas, c'est bien, mais c'est quoi le contexte? Ben le contexte, le voilà. Le détroit d'Hormuz est fermé depuis 93 jours, des millions de barils par jour ne passent plus, l'essence est à 4,33 $ le gallon aux États-Unis contre 2,98 $ il y a un an en arrière, les rendements obligataires sont au plus haut depuis 2009, les défauts sur les cartes de crédit, sur les crédits auto, etc., sur les prêts étudiants, tout ça atteint des niveaux records, et la croissance du premier trimestre a été révisée à la baisse à cause de, tenez-vous bien, de la guerre qu'on est en train de mener contre l'Iran. Et tout ça pendant que le Nasdaq réalise ses 2 meilleurs mois consécutifs depuis novembre 2002. Novembre 2002, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ou qui n'étaient pas nés, c'était 9 mois après le début de l'effondrement de la bulle dot-com. Le marché remontait, les gens pensaient que c'était reparti pour un tour, et ensuite, bah, ça a baissé encore pendant un an. Alors je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste que le contexte mérite quand même qu'on s'en souvienne un tout petit peu. Mais voilà, le truc qui explique tout, c'est que j'ai entendu cette phrase à peu près 200 fois d'ailleurs depuis le début de l'année, et cette phrase aujourd'hui qui explique tout, c'est « Oui, mais tu comprends, il y a l'intelligence artificielle !» Ouais, c'est tout, c'est l'argumentaire complet qu'on peut proposer en ce moment, c'est la réponse à tout. Hein. Les taux sont trop hauts ? Oui, mais il y a l'IA ! La guerre dans le Golfe ? Oui, mais il y a l'IA. Le détroit d'Hormuz toujours fermé ? Oui, mais il y a l'IA. Réserve de pétrole qui s'effondre ? Oui, mais il y a l'IA quand même. Et puis l'IA est devenu donc le dieu du marché, et comme tout bon dieu qui se respecte, on y croit sans demander de preuves. C'est comme la Vierge Marie, c'est aussi l'intelligence artificielle. Alors maintenant, parlons un petit peu du deal, parce qu'il faut qu'on parle du deal quand même. Hein. Trump allait annoncer un accord avec l'Iran shortly, c'est-à-dire bientôt. C'était la semaine dernière. Avant ça, il était dans la Situation Room pour une décision finale. Avant ça encore, il voulait effacer l'Iran de la carte. Et ce matin, 1er juin, dans notre 3e jour de guerre, il déclare qu'il n'est plus si pressé que ça de striker un deal. Il n'est pas pressé. Pendant ce temps, Israël vient de franchir la rivière Litani au Liban. C'est une des dernières lignes rouges définies par Téhéran, pour information. Et Tsahal a planté son drapeau sur le château de Beaufort et a déclaré y établir une présence permanente. Endroit hyper stratégique s'il en faut. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas exactement le genre de geste diplomatique qui incite Téhéran à rendre son uranium en souriant. Le Hezbollah a tiré plus de 300 projectiles sur Israël rien que ce week-end, et Rubio est au téléphone avec tout le monde, et les États-Unis demandent au Hezbollah d'arrêter de tirer comme premier pas vers la paix. Super initiative, hyper créative, demander à quelqu'un qui tire des roquettes d'arrêter de tirer des roquettes comme stratégie diplomatique. Il y a eu mieux dans l'histoire. Mais bon, les marchés s'en foutent totalement, complètement, c'est inouï à quel niveau ils s'en foutent. Les futurs sont à plus 0,3% ce matin, même le pétrole remonte de 2%, le Brent est à 93$, et ça c'est parce que les gens réalisent que le deal n'est pas pour tout de suite. Mais les actions, bah les actions c'est pas grave, elles montent quand même. Pourquoi est-ce qu'elles montent? Parce que le marché a décidé collectivement que le deal allait arriver. Il sait juste pas quand est-ce qu'il va arriver. Et en attendant, autant ne pas s'énerver et acheter des semi-conducteurs. C'est une forme de zen financier assez remarquable, je dois le dire. D'autres appelleraient ça du déni, mais pour l'instant, c'est assez remarquable. Et maintenant, je vais vous parler d'une phrase. Une seule phrase prononcée par Neil Chapman. Neil Chapman, c'est un vice-président senior d'ExxonMobil. Neil Chapman, c'est un homme dont le métier consiste précisément à regarder les chiffres réels du pétrole, et pas les marchés financiers, pas les rumeurs de deal, les chiffres réels, concrets, les barils, les stocks, les réserves stratégiques. Et Neil Chapman a dit calmement, sans pour autant dramatiser, que les stocks mondiaux de pétrole approchaient des niveaux inédits, dans le sens très bas, et que le Brent physique, pas le papier, le vrai pétrole physique, pourrait bondir vers les 150-160$ le baril quand les réserves stratégiques toucheraient leur plancher opérationnel, et que ce plancher pourrait bien être atteint dans 2 à 3 semaines. Et chez Chevron, le patron a dit plus ou moins la même chose, mais lui dit plutôt fin juin, début juillet. Donc les deux géants pétroliers américains ne sont pas d'accord sur le timing exact, mais sont d'accord sur le fond et sur la forme. Et le fond, c'est si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas très vite, et quand on dit très vite, c'est très vite, on va avoir un problème de pétrole qui va rendre tout le reste, l'IA, les semi-conducteurs, les records du Nasdaq, absolument secondaire. Imaginez un baril à 160$ en plein mois de juillet. Les marchés le savent, ça. Évidemment qu'ils savent ça. Ces gens-là lisent Bloomberg depuis 4h du matin, donc ils sont pas allés de la dernière pluie, ils sont au courant. Mais ils ont fait un choix. Le choix de croire au deal hollywoodien de dernière minute, au héros qui arrive in extremis et sauve la situation au dernier moment. Et vous savez quoi? Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que le deal va arriver cette semaine. Peut-être que dans 10 jours, Hormuz est rouvert et que le pétrole descend à 70$. Mais si le deal n'arrive pas, vous avez entendu ce que disent Exxon et Chevron. Bon, parlons d'autre chose, parlons du Japon. Parce que ce matin, le Japon a décidé d'aller encore plus loin. Le Nikkei a franchi les 67 000 points, pour la première fois de son histoire. Record absolu, c'est du jamais vu. Et la raison principale de cette hausse, la locomotive, l'action qui tire tout le monde vers le haut, c'est SoftBank, plus 10% en une seule journée. SoftBank, c'est désormais la plus grosse capitalisation boursière du Japon, devant Toyota. Toyota, 2 siècles d'ingénierie, des millions de voitures vendues chaque année dans le monde entier, une des marques les plus reconnues de la planète, et SoftBank, la société dirigée par Masayoshi Son, un homme qui a investi dans WeWork, en déclarant publiquement que c'était le prochain Alibaba, le même WeWork qui a fait faillite 2 ans plus tard. Mais le même Masayoshi Son qui a perdu, attention, 60 milliards de dollars en 2000 pendant la bulle dot-com, record mondial. Ce matin, cet homme est à la tête de la plus grosse capitalisation boursière du Japon et grosso modo, c'est un fonds de private equity, relooké. Non, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau. Il y a une sacrée logique là-dedans et je la cherche encore. Mais elle existe, hein. Sûrement qu'elle existe cette logique. Enfin, pendant ce temps, le Topix, qui est l'indice japonais, celui qui contient des entreprises qui font des choses concrètes, un indice beaucoup plus large, lui recule de 2%. Et curieusement, sur les 225 composants du Nikkei, 152 sont en baisse. Mais l'indice monte quand même de 1% parce que SoftBank pèse suffisamment pour tirer tout le monde vers le haut. C'est la magie merveilleuse des indices pondérés par capitalisation. Quelques mastodontes, IA décident de tout, le reste regarde passer le train. Ça nous rappelle quelque chose, ça, non? Ça s'appelle les Max 7, non? Un truc comme ça. Et maintenant, je vais vous parler du sujet le plus important de ce matin. Le sujet que personne ne traite, parce que ce week-end, Jerome Powell a prononcé un discours. Jerome Powell, vous vous souvenez de lui? C'est l'ancien président de la Fed, hein, celui que Trump a remplacé par Kevin Warsh, un homme que Bessent a décrit comme « the new sheriff in town ». Ce qui est une façon de dire qu'il sera beaucoup plus, disons, arrangeant sur les taux. Powell est désormais simple gouverneur de la Fed et il a accepté ce week-end un prix pour courage politique à Boston. En gros, ça veut dire « t'as tenu tête au clown de Washington, tu mérites un prix ». Dans son discours, sans jamais nommer Trump, sans jamais pointer le moindre président du doigt, il a dit une chose très précise et très claire. Il a dit que la Fed ne pouvait pas survivre si une administration trouve un moyen de limoger ses responsables pour des désaccords de politique monétaire. Il a dit que la crédibilité de la Banque centrale construite sur des décennies était un actif inestimable. Et il a cité Edmund Burke, le philosophe, qui disait que les institutions prennent des années à se construire et peuvent être détruites très très vite. Alors, pourquoi Powell est-il resté gouverneur après son mandat? Tous ses prédécesseurs se sont pourtant tirés, lui, il est resté. Bien parce que le board de la Fed, dont il fait partie, approuve les nominations des présidents régionaux. Et si ce board devient moins indépendant, c'est la Fed entière qui change de nature. Donc Powell est investi d'une mission divine. Et dans les prochaines semaines, justement, la Cour suprême va se prononcer sur la tentative de Trump de limoger Lisa Cook, une gouverneure de la Fed, ce qui serait une première en 113 ans d'histoire de la Banque centrale américaine. Powell veut donc être là et faire barrage de son corps. C'est un sujet absolument capital pour les marchés à long terme, pour les taux, pour l'inflation, pour la crédibilité du dollar, pour nous tous en fait. La couverture médiatique de cette histoire ce matin, elle est quasi nulle, parce que vous comprenez, il y a l'intelligence artificielle. Bon, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Cette semaine, c'est le début du mois, donc on a les NFP vendredi, les créations d'emplois du mois de mai, consensus à 95 000, chômage attendu à 4,3. C'est pas un marché du travail qui est en folie. Mais si le chiffre sort au-dessus des attentes, et le BLS a une créativité qu'on ne peut pas totalement exclure, et ça renforcera la probabilité d'une hausse des taux, et une hausse des taux avec des valorisations à ces niveaux-là, on va dire que ça mérite réflexion. Mercredi, Broadcom publie ses résultats, une des 6 sociétés américaines valorisées à plus de 2000 milliards de dollars. 90% des sociétés du S&P ont battu les attentes ce trimestre. Les attentes sur Broadcom sont donc stratosphériquement élevées, et la marge d'erreur est de l'épaisseur d'une feuille de cigarette, et ce sera donc intéressant à regarder. Et puis, il y a le premier deal de Greg Abel chez Berkshire Hathaway. Abel, c'est le successeur de Buffett, et son premier mouvement, c'est l'achat de Taylor Morrison, un constructeur de maisons pour 6,8 milliards, prime de 24%. La thèse implicite, aux États-Unis, les gens continueront d'habiter quelque part. C'est pas la thèse la plus excitante du capitalisme moderne, mais c'est le genre de pari que Berkshire Hathaway gagne généralement, lentement, mais sûrement, sans avoir besoin de mentionner l'IA dans son communiqué de presse. Et puis revenons deux minutes sur SpaceX, parce que là aussi, il y a une petite news importante dont tout le monde se fout. Un fonds de pension danois de 25 milliards de dollars vient de regarder la valorisation de SpaceX droit dans les yeux, et ils ont déclaré en substance « Non merci, on préfère garder notre pognon ». Le CIO d'Academy Corporation a qualifié SpaceX de massivement surévolué avec une gouvernance catastrophique. Là, on n'est clairement pas dans la nuance diplomatique scandinave habituelle, on est dans le diagnostic sans anesthésie. Le raisonnement est hyper simple, SpaceX vise 1800 milliards de valorisation, les Danois calculent que ça vaut raisonnablement la moitié, et surtout, Musk contrôle tellement la boîte que les actionnaires extérieurs n'ont concrètement aucun pouvoir sur quoi que ce soit. En gros, ce qu'ils disent en clair, c'est qu'ils n'avaient aucune envie d'être passagers dans une fusée sans volant ni frein aux mains d'un homme qui gère simultanément 6 entreprises, tweet à 3h du matin et se brouille avec les gouvernements par passion. Le plus savoureux, c'est la précision finale. Même si la valorisation était correcte, ils n'achèteraient probablement pas quand même, parce que la gouvernance est catastrophique indépendamment du prix. C'est pas « c'est trop cher », c'est trop cher et on veut pas ». Pendant ce temps-là, le fonds souverain norvégien, 1700 milliards de dollars sous gestion, soit 68 fois la taille des Danois, étudie sérieusement la possibilité d'investir ou pas. Donc d'un côté, 25 milliards Danois qui disent non avec une clarté chirurgicale, et de l'autre, 1700 milliards norvégiens qui hésitent encore. Alors voilà où on en est aujourd'hui, en ce lundi 1er juin 2026. Une guerre qui dure depuis 93 jours, un deal annoncé bientôt, depuis à peu près 85 d'entre eux, des stocks de pétrole qui pourraient toucher leur plancher dans 2 à 3 semaines, selon ExxonMobil et Chevron, l'indépendance de la Fed qui se joue devant la Cour suprême dans les prochains jours, et SoftBank qui est ce matin plus grosse que Toyota, et les futurs sont en hausse de 0,3%. Tout est parfaitement logique, tout est parfaitement cohérent, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Et parce que tant que le deal n'est pas mort officiellement, le marché choisit d'y croire encore. C'est humain, c'est compréhensible et c'est exactement comme ça que se construisent les bulles, pas dans la cupidité, pas dans la bêtise, mais dans l'espoir et dans le choix collectif de croire au meilleur scénario jusqu'au moment où ça n'est plus possible. Passez une très belle journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter et quant à moi, je vous dis à demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.